Caroline Luzy, responsable de l'unité scientifique et médiation au musée de Quinçon, présente un événement annuel. Cet événement, hélas, annulé pour cause de pandémie en 2020 que l'on espère maintenu pour cet été. Cet événement donc qui fut à l'origine de la création du musée de Quinçon. Il s'agit des journées de la préhistoire.
C'est un grand rendez-vous avec le public. J'ai l'habitude de compter avec des grands noms, mais pas avec des petits. Donc on doit être quelque part entre la 25e et la 30e édition. Ce qui est une manière de dire, vu que le musée fêtera en 2021 ses 20 ans d'existence, c'est dire que c'est une manifestation qui est antérieure à la création même du musée. C'est un moment de rassemblement entre différentes formes d'expertise. On a des archéologues ou des enseignants-chercheurs qui viennent tenir des stands. On a aussi des partenaires institutionnels comme le service départemental d'archéologie, le muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc ils sont eux des partenaires, j'ai envie de dire, scientifiques aussi. Et le service de médiation du musée et un certain nombre aussi d'autres intervenants qui viennent échanger avec le public, proposer des démonstrations ou proposer au public donc de pratiquer différentes activités. Ces journées de la préhistoire, elles ont été voulues par le premier directeur du musée, en gros comme un test, un peu une configuration de comment le public allait réagir à une présentation sur la thématique de la préhistoire.
Très ludique quand même.
Ah ben c'est basé effectivement sur la manipulation, sur la pratique. C'est un autre niveau de discours, je dirais, par rapport à un discours plus peut-être théorique et plus écrit par définition que ce qu'on peut trouver dans le musée. Moyennant quoi, c'est en termes de médiation, c'est aussi ce qui s'inscrit vraiment dans l'offre des médiateurs du musée, à savoir un discours qui est basé sur la pratique. On met les gens en situation, non pas qu'on propose aux gens de se plonger concrètement et réellement dans le quotidien des hommes préhistoriques, mais au moins d'avoir une idée à travers les gestes et certaines pratiques, la chasse, la poterie ou l'art, la cuisine aussi pour les journées de la préhistoire. Donc il y a même une entrée sensorielle, hein, on peut découvrir la préhistoire par le goût. On peut hein, d'ailleurs, petite parenthèse, avoir une idée de ce que cuisinaient les préhistoriques, au moins à partir du néolithique, parce que souvent les poteries, donc l'argile cuite qui a servi à cuire les aliments, à conserver des caramels alimentaires, c'est-à-dire des excès de nourriture qui ont versé hors du contenant et qui ont été carbonisés par le feu. Et ça, souvent, c'est une trace archéologique qui s'est conservée. Et du point de vue chimique, on peut arriver à isoler des molécules et savoir si c'est de la protéine, si c'est des lipides, si c'est acide, si c'est gras. Et donc, on peut déjà clairement attester que les poteries servaient à cuire et que donc on faisait cuire. Et on faisait cuire quoi ? On faisait des soupes, des brouets, des ragoûts, des gruaux, dès le néolithique. Donc, les journées de la préhistoire, c'est aussi un moment de découvrir la préhistoire par le goût, en se rapprochant le plus proche possible de ce qu'on sait des menus, notamment au néolithique. Pour vous donner l'eau à la bouche, aux journées de la préhistoire, on peut manger du ragoût de mouton qui a mitonné toute la journée avec des lentilles, avec parfois des fèves, hein, qui sont des légumineuses qui sont domestiquées dès le néolithique et agrémentées d'aromates comme les oignons sauvages ou le thym, qui étaient déjà utilisés dans la cuisine préhistorique.
On trouve également l'art d'aimer la poterie, les bijoux ont été fabriqués depuis très longtemps.
Alors pour tout ce qui concerne ce qu'on va globalement appeler la parure, c'est quelque chose qui pour l'instant est réservé entre guillemets aux Homo sapiens. Traduction, avant 40-45 000, avant sapiens, on n'a pas de manifestation considérée comme symbolique. Et dans ce grand domaine-là, on fait rentrer à la fois toutes les manifestations artistiques. Alors bien sûr, on pense tout de suite à la peinture, avec Lascaux, avec Chauvet, à la gravure. En local, on a le bison de Ségriès. Et il faut rajouter à ces manifestations artistiques tout ce qui est effectivement donc parure. Donc on a des dents perforées, également des coquilles, soit portées en suspension, soit cousues sur des vêtements. Et ça va transiter, on va dire, jusqu'à la découverte à la fin du néolithique d'un nouveau matériau qui est en gros le minerai, le métal. Donc à partir de l'âge du bronze, on va avoir d'autres objets fondus, moulés, des rouelles, différents types de pendeloques. J'ai envie de rajouter aussi dans cette manifestation de parure aussi tout ce qui va être d'origine minérale et le cristal de roche notamment, qu'on va perforer et porter également comme un signe distinctif. Après, dans un grand mouvement entre guillemets de réhabilitation de Néandertal, parce que Néandertal, on en a longtemps fait un peu la grosse brute épaisse, hein, dans une vision évolutive, c'est-à-dire que forcément, depuis les hommes préhistoriques les plus anciens, l'évolution nous aurait conduit d'une forme bestiale et primaire vers quelque chose d'éminemment évolué, sophistiqué. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, dans le cadre de la réhabilitation de Néandertal, il faudrait situer que probablement, il a lui aussi une pensée symbolique. Donc quelque chose qui était jusqu'à maintenant le seul attribut, si je puis dire, de Sapiens. Et pourquoi ? Ben simplement parce que Néandertal va collecter des minerais, des curiosités, des fossiles, et qu'on a dans différents sites peut-être l'indice, voire même d'une expression, je vais pas dire picturale, mais en tout cas des traces de colorants, de pigments sur des sites avec des datations tellement hautes que ça peut pas être le fait des Sapiens, et donc antérieur à leur arrivée, ce qui voudrait dire que Néandertal a peut-être lui aussi, on va utiliser un grand terme générique, orné les parois des cavernes où il séjournait. Est-ce que c'était de l'art? C'est difficile à dire. D'ailleurs, en ce qui concerne Sapiens, est-ce que vraiment c'est de l'art? C'est un terme commode aujourd'hui. C'est le terme qu'on va utiliser au 20e pour qualifier des représentations qui sont toujours évidemment très spectaculaires. Les auteurs de ces peintures n'étaient pas forcément des artistes au sein de leur groupe, premièrement. Et deuxièmement, la destination de ces peintures reste encore énigmatique, mais on est probablement dans quelque chose qui est éminemment symbolique, peut-être pourquoi pas religieux ou initiatique, ou en tout cas avec sûrement une très très forte connotation.